France Inter. Bonjour, soyez les bienvenus sur France Inter. Être perçu comme beau, suffit-il à vous faire avancer dans la vie? La question peut sembler superficielle, mais elle ne l'est pas, parce que derrière ce qu'on appelle désormais le beauty privilege, le privilège d'être physiquement avantagé, se cache un biais très ancien et profondément ancré dans nos représentations. Dès l'Antiquité, on a associé le beau au bon, une belle âme dans un beau corps, disaient les Grecs. Et cette idée a traversé les siècles, aujourd'hui encore dans nos mots. Une belle personne ne désigne pas qu'un joli visage, mais une figure morale. Et à l'inverse, le vilain, c'est souvent à la fois le méchant et le laid. Ce glissement de sens a-t-il des effets concrets dans nos vies? Plusieurs études tendent à le suggérer. La beauté fascine, elle capte le regard, elle fait vendre, parfois même voter. Elle devance la parole et elle précède le CV. Certains chercheurs parlent d'un accès facilité à l'emploi, à un salaire plus élevé. Ils ajoutent même qu'à l'école déjà, les élèves jugés avenants sont mieux notés. Et jusque dans les tribunaux, l'apparence du prévenu peut jouer sur la sévérité de la peine. Faut-il y voir un avantage silencieux qui ne dit pas son nom, mais qui oriente les trajectoires? La question dérange d'autant qu'elle divise. Déjà, le privilege beauty dépend de ce qu'on entend par beauté, un concept aux critères subjectifs, changeant, dicté souvent par les dictats imposés par les sociétés occidentales, les époques et les modes. Et puis, certaines et certains, beaux selon les normes du moment, se disent eux-mêmes piégés par ce privilège. Ils sont vus avant d'être entendus, jugés avant d'être écoutés. La beauté peut se retourner comme un stigmate, surtout pour les femmes. Alors, le privilège de la beauté, en est-il vraiment un? On en débat jusqu'à 12h45.
France Inter, le débat de midi. Saskia Deville.
Hier, je suis sortie de chez moi en vitesse et j'ai oublié mon pass Navigo. Et là, qu'est-ce que je vois? Les contrôleurs. Le mec, il me dit du coup, ouais, je t'ai vu sur le quai, je t'ai trouvé grave mignonne en plus, tu vas pas payer, mais donne ton snap quand même d'abord. Vraiment, le beauty privilège, il m'a évité une amende là. J'avoue, je suis contente.
Et si vous aussi, comme cette TikTokeuse, ça vous est déjà arrivé, ou au contraire, vous n'avez pas échappé à l'amende, chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez participer à ce débat. Réagissez sur l'application Radio France ou envoyez-nous vos notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. Pour débattre de ce sujet brûlant, j'ai le plaisir d'accueillir ce midi Nesrine Slaoui. Vous êtes journaliste, essayiste et réalisatrice de documentaires. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Jean-François Dortier, vous êtes humanologue et fondateur du magazine Sciences Humaines.
Bonjour.
Et par téléphone avec nous également aujourd'hui, Virginie Grossa, influenceuse spécialisée en mode plus size et gastronomie. Vous avez plus de 700 000 followers sur TikTok. Dois-je vous dire hello la dodu?
Oui.
C'est comme ça que vous commencez toutes vos vidéos. Voilà, exactement. Bienvenue. Et bienvenue également à Guillaume Vallet, professeur d'économie à l'université Grenoble-Alpes.
Bonjour.
Alors, je vais vous poser une première question à tous les quatre. Le privilège de la beauté est-il incontestable, Nesrine Slaoui?
Déjà, je pense qu'il y a un problème de définition parce que c'est un anglicisme, le beauty privilege. Et en français, on parlerait plutôt de capital beauté, pour le coup. Si on veut s'inscrire dans la sociologie française, dans les théories bourdieusiennes et même s'inspirer de ce qu'a dit Eva Illouz sur le capital sexuel, je pense qu'il faut faire une distinction entre capital et privilège. Un privilège, c'est quelque chose qui est structurel et qui fait partie de votre vie quotidienne et qui même oriente toute votre vie quotidienne. C'est le fait d'être blanc, le fait d'être un homme, le fait d'appartenir à une classe aisée et le fait d'être hétérosexuel. C'est ça nos plus grands privilèges. En revanche, les capitaux sont des choses qui sont mobilisables dans certains contextes ou non, et qui donc sont malléables. C'est le capital culturel, le capital social, et il y a aussi évidemment les capitaux symboliques, comme la notoriété, et la beauté aussi en fait partie. Et c'est très important de faire cette distinction. Pourquoi? Parce que si la beauté était un privilège, elle n'aurait pas des inconvénients. À partir du moment où avoir un capital induit, notamment pour les femmes, je reviens sur le témoignage de la jeune fille qu'on a entendue, c'est de la misogynie. En fait, ce qu'elle a vécu, c'est pas du beauty privilège, c'est le fait, en tant que femme, d'avoir été réduite à son physique. Et c'est très problématique parce que dans des sociétés patriarcales où les femmes sont poussées avant tout à être belles, avant toute chose, si on les réduit à ça, on ne peut pas considérer que c'est un privilège. C'est au contraire une assignation. Parfois, c'est même une forme d'aliénation. Je pense qu'on va en parler quand on va parler du coût de la beauté dans nos sociétés contemporaines. J'ai fait un documentaire sur Kim Kardashian où on a montré le boom de la chirurgie esthétique et donc à quel point aujourd'hui, être belle pour une femme, c'est surtout un coût financier. Ça a un prix à payer beaucoup plus élevé que la beauté des hommes. Et c'est pour ça que c'est très important de le faire. Et je fais une dernière distinction qui, pour moi, l'est encore plus. Quand on parle de beauty privilège, on considère que les standards de beauté occidentaux sont ceux à partir duquel on juge la beauté des uns et des autres. Mais la beauté est traversée donc par le genre, vous l'avez compris, différence entre hommes et femmes, mais aussi par l'apparence, l'appartenance ethnique. En fait, les femmes belles, si elles sont par exemple blanches, noires ou arabes, ne sont pas perçues de la même façon. En tant que femme maghrébine notamment, on est renvoyé au fantasme orientaliste, et qui est un fétichisme. Donc on a tendance à considérer, si on trouve que des femmes noires ou arabes ou asiatiques sont jolies, on a tendance à considérer que c'est un privilège, alors que c'est un fétichisme.
C'est amusant ce que vous dites, Nesrine Slaoui, parce que j'ai un premier message ici de Sandrine, qui nous écrit « Je fais 1m83, je suis mince, métisse et sans doute très agréable à regarder si je me base sur les retours de proches ou d'inconnus, mais la majorité de mes expériences de contact avec les hommes me donnent l'impression d'être un objet de désir exotique.
Exactement.
Et les femmes me traitent comme une rivale. » On va continuer à en parler, mais j'aimerais avoir votre réponse à vous, Jean-François Dortier. Le privilège de la beauté, le capital de la beauté, on va peut-être reformuler la question, est-il incontestable ?
Pour moi, oui, il est incontestable. D'abord au sens où la beauté, l'attraction physique compte dans les relations humaines. C'est une question faussement futile que de parler de l'apparence. Ça compte beaucoup. Ça compte dès l'enfance, dès les classes de maternelle où les moches et les beaux sont distingués parce que les beaux sont plus populaires et les moches sont plus l'objet de harcèlement. Ça compte surtout à partir du collège, de l'adolescence, où là on va faire très attention à son physique parce que c'est important, notamment dans les relations d'amour, sur le marché de l'amour, dirait Houellebecq. Puis ça va compter dans le monde du travail, différemment selon les secteurs professionnels, bien sûr, les métiers de représentation, c'est pas la même chose que les métiers du bâtiment ou de la boulangerie, hein. Mais c'est très important. Et donc, ça a de l'importance en politique, et c'est globalement en faveur de la personne qui est belle, même si ça a évidemment quelques inconvénients dont on va parler, mais qui sont quand même des formes de souffrance plus plaisantes que celles de la laideur.
Virginie Grossa, qu'en pensez-vous ?
Ah, moi, je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Moi, je vis à l'intérieur de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis grosse, voire même très, très grosse. Donc, je ne correspond pas aux standards de beauté de la société. Et c'est vrai qu'on me le rappelle absolument tous les jours. J'ai l'impression que si on ne correspond pas à ce qu'un homme désire, par exemple, ben, on n'est vraiment pas traité de la même manière. Que ce soit de l'enfance à aujourd'hui, moi je l'ai tous les jours, on m'a rappelé que j'étais grosse, que je rentrais pas dans le moule. Après, c'est vrai que pour moi, tout le monde est beau, mais c'est juste, tout le monde ne correspond pas aux standards.
Et vous, Guillaume Vallet, qu'en pensez-vous ?
Oui, moi aussi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, au sens où, en tout cas, celles et ceux qui bénéficient d'une certaine beauté, ou en tout cas qui sont labellisés comme bénéficiant d'une certaine beauté, cherche à mettre en avant cet avantage, ce privilège, parce que finalement, ça renvoie à l'idée d'une espèce de distinction qui permet de sortir de la masse. Et la beauté, elle peut être naturelle, bien sûr, mais on voit de plus en plus qu'il y a le côté construit qui est mis en avant par... on a parlé de la chirurgie esthétique, mais on va parler sans doute aussi de cette culture du sport très présente aujourd'hui, notamment dans les salles de sport où le muscle qui cherche à être développé est associé à une certaine forme de beauté. Et c'est pour ça que, comme disait Jean-François Dortier, c'est vrai qu'on cherche à l'objectiver, cette beauté, elle est très importante, elle compte dans les interactions dans notre société de l'image, dans notre culture de la communication, donc ça c'est certain. Maintenant, moi aussi j'aime beaucoup ce terme de capital beauté, parce que c'est un capital qui est très particulier, il est labile, il se déprécie au fil du temps, et puis il renvoie à cette aspect extérieur, intérieur que l'individu qui porte cette beauté doit gérer. C'est pas toujours évident au quotidien, mais bien sûr l'avantage de cette beauté, il est socialement construit, il renvoie à des rapports de force, et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce que la beauté est toujours une construction aussi historique.
Alors, c'est une bonne question et je vais préciser, Guillaume Vallet, que vous avez investigué ce sujet du beauty privilege durant votre thèse de sociologie et aussi en tant qu'économiste à travers le bodybuilding. C'est une vraie question, ça. Le coût est-il le même pour les hommes et les femmes? Et j'ai d'ailleurs encore un message ici d'une auditrice qui nous écrit ceci. Monique, à la télévision, le critère de beauté concerne beaucoup plus les femmes que les hommes. Aux 28 minutes sur Arte, sur France Info, les journalistes, présentatrices et chroniqueuses sont toutes d'une grande beauté, alors que c'est beaucoup moins le cas pour les hommes, pour lequel cela ne semble pas un critère déterminant. Nesrine Slaoui.
Oui, et puis c'est tout le paradoxe, pour le coup intervenir sur les plateaux télé, effectivement, déjà la préparation des femmes en télé est beaucoup plus longue en termes de maquillage, de coiffure, de tenue vestimentaire. On y réfléchit, c'est un coût mental pour les femmes de réfléchir à être belle, et selon évidemment, comme on l'a dit, des critères qui sont grossophobes, coloristes, etc. Je ne nie pas en fait la réalité des standards de beauté. Et ce qui est paradoxal, c'est que si vous êtes par exemple une femme journaliste en télé qui est présentée comme jolie, ça va vous décrédibiliser sur le sérieux. Et d'ailleurs, c'est ce que montrent des études américaines depuis les années 70. Ils montrent qu'il peut y avoir un capital de beauté pour des métiers d'image, donc le mannequinat, la télévision. Bon,
on peut penser sur Canal Plus qui était présenté par des mannequins.
Exactement, ça peut être un capital symbolique mobilisable à ce moment-là, mais en revanche, si vous voulez être ingénieur, patronne dans des grandes sociétés, on va considérer que votre beauté en tant que femme est superficialité et donc vous allez être moins prise au sérieux. C'est vraiment des études qui existent depuis, je les ai notées, mais elles sont très très longues à citer, mais ce sont des études qui existent depuis les années 70 aux États-Unis. Et un dernier point, puisque la beauté c'est quelque chose qui est attendu des femmes, c'est aussi le critère sur lequel nous sommes mises en rivalité. Il y a une rivalité féminine sur qui est la plus belle, qui est la plus mince, etc. et même qui est la plus blanche en réalité.
Alors on ne peut pas dire que tout le monde est beau comme le disait Virginie Grosso.
Moi dans mon esprit oui, évidemment que je suis aussi partisane de cette vision des choses, c'est qu'on devrait considérer que tout le monde est beau et belle, mais c'est vrai que la beauté a une connotation à la fois blanche et à la fois aussi bourgeoise, c'est-à-dire mince, etc. Et ce que je disais sur la rivalité, c'est très important de le comprendre, parce que par exemple, il y a une étude aux États-Unis qui a montré que si une femme jugée trop belle se présentait à un entretien d'embauche et que c'était une femme en face, elle pouvait la discriminer par sentiment de rivalité en lui disant justement c'est un danger d'avoir une femme plus belle dans l'entreprise, vous allez perturber des hommes dans notre société. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux là-dessus. J'ai eu vraiment une affluence.
Décrire cette vidéo.
J'ai fait une vidéo où je disais que le beauty privilège n'existait pas parce que, comme je l'ai dit, pour moi, il faut parler de capital, pas de privilège. Le vrai privilège, c'est la blanchité et la masculinité. C'est autre chose. Et donc, j'ai reçu plein de messages de jeunes femmes qui me disaient « J'ai été discriminée, par exemple, dans un cabinet dentaire pour me présenter en tant que dentiste parce qu'on m'a dit que j'étais trop belle pour la clientèle. » Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est que ça peut être un capital pour des métiers où l'apparence physique compte. Je pense, par exemple, à hôtesse d'accueil qu'on a parfois fait dans notre job étudiant en tant que femme. Mais en revanche, quand il s'agit de se présenter comme des êtres humains sérieux, comme des femmes compétentes, la beauté, en fait, c'est un désavantage.
Vous avez connu déjà cette rivalité?
Ah oui, moi, je l'ai eu plein de fois. Tout au long de ma carrière de journaliste, on m'a fait la remarque que si je me souciais trop, j'ai étudié à Sciences Po, il y a un professeur qui avait écrit sur mon bulletin, « devrait plus se soucier des livres que de son apparence physique ». Pour quelqu'un qui écrit des livres, c'est assez marrant d'avoir reçu ce commentaire.
Ce genre de commentaire, effectivement. Jean-François Dortier, selon vous, et dites-moi si je me trompe, mais l'esthétique est plus importante pour la femme, mais c'est quelque chose qui remonte à loin.
Oui, d'abord, ce n'est pas tout à fait nouveau. Hein, le culte de l'apparence, aujourd'hui, il est marchandisé beaucoup plus qu'à une certaine époque, mais de tout temps, les femmes ont cherché à être belles, et dans toutes les cultures, elles ont pris soin à leur coiffure, elles ont pris soin à leur apparence, à leurs vêtements, à leur... Et au maquillage lorsqu'il existait. Donc, très tôt d'ailleurs, les jeunes femmes ont conscience de l'importance de ce physique dans les relations humaines. Et donc, elles cultivent leur apparence globalement. Et plus que les garçons.
Mais on ne constate alors, pas le sont... même genre de phénomène chez les hommes.
Comment ? Alors, attention, les garçons sont sensibles aussi. Hein, ils aiment être des beaux gosses. Et vers l'adolescence aussi, on va cultiver plutôt la musculature, on va chercher à avoir un physique qui est avantageux. Mais effectivement, c'est moins.
C'est pas ce qui compte le plus.
Ça compte un peu moins. Et alors, d'une certaine façon, curieusement, les hommes dans leur choix de partenaire, ils prennent beaucoup plus en compte le physique des femmes. Les femmes le font beaucoup moins pour les hommes. Elles sont d'une certaine façon plus intelligentes parce qu'elles font valoir d'autres critères qui sont des critères moraux, des critères de statut social aussi. Hein. dans leur choix. Et donc, c'est quelque chose de très important. Mais je reviens à ce que vient de dire Nesrine sur le privilège qui n'en serait pas un pour certains métiers, et notamment, vous avez parlé des présentateurs. Moi, j'étais l'autre jour, dimanche, sur LCI, pour parler de la natalité. J'étais entouré d'une journaliste et de chroniqueurs qui étaient là. C'était tous des Ken et des Barbie. Tous des gens qui sont des brillants journalistes. Mais qu'est-ce qui leur a permis d'être sur le plateau aussi? Manifestement, il y avait un atout supplémentaire de leur apparence. Depuis quelque temps maintenant, sur tous les plateaux télé, eh bien, les gens sont à la fois reconnus comme compétents, ayant des qualités, étant brillants, et en même temps, eh bien, c'est un avantage dans ce cas-là. Comme dans le métier de steward et autres, pour pouvoir accéder à certains métiers.
Mais moi, ce que je ne dénie pas, c'est pas le capital beauté dans des métiers d'image. Ça, il existe, on est d'accord là-dessus. Ce que je précise, c'est la différence entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'un homme peut être considéré comme beau, compétent, intelligent, drôle. Une femme, si elle est belle, elle est juste considérée comme belle. C'est-à-dire qu'on va dire, justement, elle a fait carrière parce qu'elle est belle, ou elle a fait carrière parce qu'elle a mis en avant son physique.
C'est encore le cas aujourd'hui.
Oui, je trouve que c'est encore le cas. Et je vais vous donner un exemple qui est particulièrement intéressant. Je suis allée voir l'exposition de Cléopâtre au monde arabe. Cléopâtre, aujourd'hui encore, dans notre époque, on la considère comme une femme belle et on a totalement oublié, je parle vraiment de l'opinion publique, si ça a encore du sens de le dire comme ça, on a oublié que Cléopâtre était une femme brillante, une politicienne pragmatique qui a été la dernière grande reine d'Égypte. On a considéré...
Elle était même interprétée par Monica Bellucci
dans Cléopâtre. Exactement. C'était intéressant dans l'Institut du Monde Arabe parce que c'était précisé que 1500 marques avaient utilisé l'image de Cléopâtre comme femme belle pour vendre des produits. Donc ça montre encore que c'est quelque chose qui est hérité de l'Antiquité aussi, cette façon dont on a de réduire les femmes à leur physique. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de capital sur le physique, surtout quand on correspond aux standards de beauté. L'idée, c'est de dire que pour les femmes, ça les décrédibilise, alors que pour les hommes, ça leur rajoute juste une qualité supplémentaire.
Voilà, vous l'entendez ce midi, nous débattons sur cette notion de beauty privilege et à quel point cela peut être un avantage ou un fardeau. Hein. Juste avant de poursuivre notre débat, nous écoutons Green Tea Peng, ce titre « Watch I'm in » sur France Inter. What you mean, say what you mean to me. What you mean, say what you mean to me. Give it to me, you gotta let me know what I am doing, where I am going wrong. Stop licking us, tell me to my face, here for it now. So show me what you made of, show me what you made of. What you made of? Show me what you made of. You think I care about your opinions? I think they valid, but they can't do me harm. I'll take it on. Your criticism, then dust it off. Yeah, once I feel I'm wrong, so show me what you made of. What you mean? What you mean? Say what you mean to me. What you mean? What you mean? Say what you mean to me. Good thoughts and it shows. By the bits they grow. Jealousy no more. That must have been controlled. Green eyes and they bold. Coming from my goal. Grip, grip, it holds. The certain chest it grows. We drip, drip, yeah, we pouring. The monster been ignoring. We sleeping, yeah, we snoring. It's knocking, it's important. Let the rhythm raise your thumb and see. Yeah, yeah. So show me what you made of. 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 You think I care about your opinions? I think they valid, but they can't do me harm. I'll take it on. Your criticism, then dust it off. Yeah, once I feel at home. So show me what you made of. What you mean? Say what you mean to me. What you mean? What you mean? Say what you mean to me. What you mean? What you mean? Say what you mean to me. What you mean? What you mean? Say what you mean to me.
France Inter. Le débat de midi.
Et vous pouvez réagir, chères auditrices, chers auditeurs, à ce débat. Le beauty privilege existe-t-il vraiment? Vous l'entendez, hein, nos invités en plateau n'ont pas tout à fait la même vision du sujet. Vous pouvez nous envoyer vos messages sur l'application Radio France, vos notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. Et puis, je suis accompagnée pour en parler de Nesrine Slaoui, journaliste, essayiste, réalisatrice de documentaires, Jean-François Dortier, humanologue et fondateur du magazine Science Humaine, Virginie Grossa, influenceuse spécialisée en mode plus size et gastronomie, et puis Guillaume Vallet, professeur d'économie à l'Université Grenoble-Alpes et également auteur de ce livre, La fabrique du muscle, paru en 2022, excusez-moi. C'est vers vous, Virginie Grossa, que je vais me tourner à présent. Vous avez dépassé, en quelque sorte, ce très controversé concept de beauty privilege, si je peux dire ça comme ça. Vous construit votre business sur un physique, le vôtre, qui ne correspond pas justement aux normes, si on peut dire, actuelles de la beauté.
Ben c'est vrai que moi, je pourrais peut-être remercier le beauty privilege parce que grâce à lui, mon business est florissant. Parce que je pense que si j'étais standard, j'aurais pas autant d'impact dans la vie des gens. C'est vrai qu'on est surpris quand on va sur mes réseaux sociaux de voir une femme grosse, glamourisée, pose comme on peut trouver dans les magazines, s'habiller tendance et me voir aussi par exemple faire des critiques gastronomiques parce que tout le monde reproche aux gros de beaucoup manger mais on les voit jamais manger dans l'espace public par exemple et moi je casse toutes les barrières qui sont associées aux clichés sur les personnes grosses donc je suis active, je voyage, je donne des conseils voilà pour être le mieux intégré possible dans la société et aussi je dénonce cette société par le manque d'aménagement et d'inclusivité. Donc c'est vrai que ce principe de beauty privilege fait qu'aujourd'hui mon compte est florissant. J'ai beaucoup de commentaires positifs de personnes qui sont heureuses de voir des profils comme le mien où ils se retrouvent et d'autres personnes qui me dénoncent et qui sont plutôt odieux avec moi parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des personnages comme le mien et ils pensent que je pousse les gens à me ressembler ou en tout cas à devenir par exemple obèse ou faire la promotion d'un mode de vie néfaste, ce qui n'est pas du tout le cas.
Et c'est vrai que votre succès, hein, on le voit sur les réseaux sociaux, je crois que vous êtes à 100 000 abonnés sur Instagram, 700 000 sur TikTok, notamment Jean-François Dortier, je pense que vous souhaitiez aussi réagir.
Oui, par rapport à cette question de la norme unique. D'abord, ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis quelques années, quand même, la norme de beauté et c'est plus diversifié. On accepte des profils différents, y compris dans la publicité qui met en avant des grandes tailles, des personnes qui sont aussi d'un âge plus élevé. On le voit aussi beaucoup dans les séries télé, où les femmes ne sont plus les sexes symboles qu'elles ont été à une époque, et on a une grande variété. De ce point de vue-là, c'est une évolution qui est positive. Mais je reviens à ce que dit Nesrine, parce que je n'étais pas du tout d'accord. Elle a cité le cas de Cléopâtre sur cette idée qu'il y aurait un cliché systématique qui voudrait que si tu es belle, alors tu es bête. Sois belle et tais-toi. Ça,
non,
peut-être dans
bête.
Les années 70.
Tu te réduis à
mais
ça.
En tout cas, réduite à cela. C'était pas le cas de Néfertiti. Vous avez cité le cas de Cléopâtre.
Elle
mais impact. Elle est à la fois très belle, mais elle est reconnue également comme une femme intelligente, une femme d'influence. Et on trouve dans beaucoup aujourd'hui de métiers, y compris des responsabilités politiques, des femmes comme des hommes qui ont le souci de leur apparence et qui ne sont pas pour autant réduits par cela, par l'opinion, à leur seul critère physique.
Vous avez vu les réactions à l'Assemblée nationale chaque fois qu'une députée met une robe?
Ça
voilà.
ça a existé,
ça.
Mais vous
non,
avez aussi...
Ça a un impact sur les hommes. Macron est considéré comme beau, ça a eu un impact sur l'édition. Jordan Bardella est considéré comme beau, ça a un impact. Mais si une femme, notamment ministre ou députée, embrasse des codes de féminité, je ne parle même pas de codes de beauté, mais simplement des codes de féminité, à savoir des robes à fleurs, à l'Assemblée nationale, elle reçoit des messages extrêmement...
Attendez, vous avez quelqu'un comme Giorgia Meloni en Italie, qui est une femme, qui est une belle femme, on peut le dire, qui a été élue, et ce n'est pas au détriment de son corps. On n'a pas immédiatement pensé, tiens, c'est une belle femme, ou disons une femme d'une apparence.
Ce que je trouve très amusant en vous écoutant, c'est quand même qu'on évoque toujours les femmes.
C'est
les
ça,
hommes.
En fait.
Non, bien sûr, les
ou
hommes
les
aussi.
Hommes. Et Guillaume Vallet, je vais me tourner vers vous êtes au téléphone avec nous. Est-ce qu'on observe, je ne sais pas, est-ce que les normes évoluent au niveau du physique des hommes, vous qui vous êtes intéressé de près au bodybuilding?
Oui, elles ont évolué. C'est vrai que l'esthétique est de plus en plus mise en avant chez les hommes, mais c'est pas uniquement une esthétique pour elle-même. C'est une esthétique qui est présentée comme étant utile, un beau qui a été construit, un beau qui a été travaillé, qui renvoie un petit peu à l'adage il faut souffrir pour être beau. Et c'est dans ce cadre-là que le physique des hommes qualifié de beau est produit et renvoie à l'idée d'une certaine maîtrise, renvoie à l'idée d'un certain travail ou d'une santé. Donc tout un ensemble d'atouts qu'on va pouvoir mettre en avant sur le marché du travail. Et ça, je dirais que c'est un petit peu nouveau historiquement. Non pas que les hommes auraient tout sacrifié et se seraient tournés vers leur physique de façon nouvelle dans l'histoire, mais c'est vraiment un atout supplémentaire qu'ils sont parvenus à construire. Et moi, je relis ça dans mes travaux à ce que j'appelle le capitalisme des vulnérabilités, c'est-à-dire un capitalisme qui a émergé depuis les années 1980 et qui renvoie davantage l'individu à lui-même, qui est sommé de se construire. Et donc, dans cette responsabilisation individuelle, le corps apparaît bien justement comme un capital à valoriser, comme un capital à entretenir. Et donc, toutes les préoccupations autour du corps sont en présence, y compris pour les hommes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, vous avez tout un ensemble de nouveaux marchés qui investissent particulièrement les hommes. Le marché des compléments nutritionnels est en plein essor, hein, 224 milliards de dollars, par exemple, au niveau mondial l'an dernier, ce qui est assez énorme. Des hommes se mettent aussi des crèmes pour apparaître plus jeunes, pour apparaître plus toniques, etc. On a aussi de plus en plus, comme l'indique le titre de mon livre, des fabriques, où on va dans un lieu spécifique avec l'intention de se construire, de créer de la beauté d'une certaine manière. Et puis, on parlait tout à l'heure des plateaux télé. Moi aussi, je suis assez... je dirais fasciné, interpellé par l'évolution des physiques des présentateurs masculins. On voit que, ne serait-ce qu'au niveau des dents en particulier, hein, les dents sont vraiment mises en avant, elles sont vraiment équilibrées, elles sont toutes blanches. Et il y a tout un marché aujourd'hui, je dirais, de la construction dentaire de confort, on peut dire ça comme ça, qui est aussi en plein essor et qui est largement investi par les hommes. Donc oui, le rapport à l'esthétique, le rapport au beau des hommes a évolué, parce que pour moi, il renvoie à cette idée de corps en mouvement, de corps maîtrisé, et finalement d'une certaine attitude qu'on va pouvoir valoriser sur différents types de marchés.
Cela dit, parfois ce corps des hommes travaillé, il est moqué. Hein. Je pense à Jordan Bardella qui avait été, à force de faire beaucoup de sport, moqué. On avait même assez violemment comparé ça en associant ce corps à de l'homosexualité.
Oui, mais en fait, il y a quand même une pratique de masse aujourd'hui qui est investie par les hommes, où le fait de travailler son muscle est quelque part un élément valorisable, parce que derrière, il y a tout un travail, il y a toute une idée de contrôle par rapport auquel les hommes vont pouvoir aussi se valoriser. Et c'est vrai que le rapport à l'esthétique du corps au sein du groupe masculin a été renvoyé pendant très très longtemps à une préoccupation qualifiée de féminine, où l'homosexualité était associée justement au féminin, parce que c'était justement l'idée que seul le corps était mis en avant, contrairement à l'idée d'un esprit, contrairement à l'idée d'autres formes de valorisation qui caractériserait des hommes hétérosexuels. Je pense qu'aujourd'hui, les choses ont largement changé. Et se préoccuper de son apparence, mettre en évidence le fait qu'on développe un muscle, non pas uniquement pour lui-même, justement, mais dans un muscle utile. On voit par exemple Macron qui met en évidence ses biceps en faisant de la boxe, c'est une attitude qui montre quelqu'un qui est discipliné, qui est prêt au combat et qui va pouvoir guider tout un ensemble de personnes. Donc je pense qu'il y a aussi finalement cette image de la beauté masculine qui est associée de plus en plus à une vision de l'hétérosexualité.
Jean-François Dortier.
Oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Il y a eu un changement assez net dans l'apparence des hommes politiques depuis quelques années. À l'échelle internationale, vous pouvez remarquer que la plupart aujourd'hui des grands dirigeants de la planète sont passés par la chirurgie esthétique, qu'ils ont tous des fonds de teint quand ils ont apparence. On peut se moquer évidemment de Donald Trump parce que c'est presque une caricature. Ils font attention à leur calvitie. Mmh. Et donc ça, c'est assez nouveau.
Il y a une étude finlandaise d'ailleurs qui dit ceci. Le Pretty Beauty Privilege peut représenter une plus-value de 15 à 20% pour un candidat aux élections.
Mmh. Oui, c'est pas étonnant. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle le effet de halo en politique, c'est-à-dire il y a ce que vous dites, les paroles qui parlent, et puis il y a toute l'apparence, et donc il y a une sensibilité, et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des responsables de communication qui sont là pour vous aider lorsque vous ne savez pas le faire. François Hollande avait perdu 15 kilos pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, parce que être un peu obèse, c'était pas glamour.
Et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, les femmes politiques doivent avoir des apparences dites masculines. Encore une fois, si on se conforme au code social,
sociaux, c'est-à-dire d'avoir des coupes plutôt courtes, d'avoir des blazers,
une voix grave,
posée, ne pas être perçue comme la fameuse hystérique qui est évidemment très vite décrédibilisée. Je voulais juste rebondir à un truc très intéressant concernant la beauté masculine que je trouve fascinant avec les réseaux sociaux, c'est la démocratisation des opérations contre la calvitie. C'est-à-dire qu'on va voir des influenceurs qui se mettent en scène, généralement ils vont dans un pays étranger parce que ça coûte moins cher, pour se faire implanter des cheveux. Et c'est intéressant parce que déjà ça dit qu'on est dans un capitalisme de l'esthétique, globalement.
C'est en Turquie, principalement.
Voilà, j'ai pas osé, mais si on peut le dire, on peut. Mais en tout cas, voilà, il y a un capitalisme de l'esthétique qui fait qu'effectivement, ça peut être une dépense désormais courante, aussi bien des femmes que des hommes, mais on remarque que c'est la seule chirurgie, en tout cas c'est la seule médecine esthétique qui augmente chez les hommes, alors que chez les femmes, c'est tout. C'est-à-dire que c'est la poitrine, ce sont les fesses, ce sont aussi évidemment les lèvres, donc c'est de la médecine esthétique qui sont de plus en plus gonflées. Maintenant, c'est les mâchoires qui doivent être de plus en plus carrées. Donc c'est intéressant de voir aussi qu'avec ce capitalisme de l'esthétique, ça vient renforcer des normes de genre, en fait, initialement.
On va continuer ce débat sur France Inter à midi et 33 minutes. Avant cela, eh bien, on va écouter un titre, Keren Ann, son titre Paris Amour.
Je suis rentrée par la fêlure d'un monde qui m'a eu à l'usure, d'un vieux fado qui vient de loin, qui bat son plein, qui cherche quelqu'un. J'ai rencontré dans les coulisses le son, l'ivresse et les délices de ceux qui longtemps avant moi y avaient droit à cette vie-là. Tu sais, parfois ça sent l'arnaque, y en a qui se cassent, y en a qui raquent, y a ceux qui se taisent, qui rasent les murs. J'ai leurs empreintes sur mes serrures. Pour compte, pour retracer une seule rencontre, pour retenir à mon insu un déjà vu que j'ai jamais vu. Je suis rentrée par la fêlure d'un monde qui m'a eu à l'usure, d'une vue qui donne sur l'infini, d'un demi-siècle, d'une longue nuit. Tu sais, parfois ça sent la faim, y en a qui se mentent, qui parle sans fin. J'ai mes serrures sur leurs enceintes. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé. Mais Paris, amour, Paris, toujours, Paris, je te quitterai jamais. Paris, t'es louche, Paris, tu couches, mais Paris, je te promets que Paris, un jour, Paris, toujours, Paris, tu tiens le sommet.
Paris Amour, un titre signé Keren Ann sur France Inter.
Le débat de midi, Saskia Deville sur France Inter.
Et on va continuer ce débat sur France Inter, bien sûr, avec un micro-trottoir que je vous propose d'écouter.
Pour les entretiens d'embauche, quand on poste un CV, peut-être être appelé plus souvent.
Je pense que la première d'égalité, ça reste la compétence.
Sur le CV, la photo, on va se dire, ah, cette personne, elle est jolie, etc. Bah, peut-être j'ai eu de la prendre, elle m'inspire confiance, entre guillemets.
La beauté n'est pas indispensable du tout. Tout ce qu'il faut, c'est savoir montrer ses compétences.
Et nous avons aussi, au-delà de ce micro trop tard, eh bien, ce message de Martine qui a discriminé un homme pour sa beauté dans un centre de coaching et de formation. Nous n'avons pas engagé un candidat, un homme donc, que nous trouvions trop beau. Sa simple apparition lors de l'entretien d'embauche avait mis tellement de femmes en émoi que nous avons préféré renoncer à collaborer avec lui. Je vois que ça vous amuse beaucoup ici en studio. Nesrin Slaoui.
C'est ce qu'on me dit, c'est le fameux capital sexuel, c'est-à-dire que là, c'est de l'ordre presque de l'érotisme, en fait. Et c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que c'est une construction sociale, l'érotisme. Mais ça, je pense qu'il faudrait une autre émission pour en parler.
Un autre débat, peut-être, Jean-François Dortier.
Oui, bien sûr, mais parce qu'il y a effectivement des inconvénients à être trop beau, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Là, je vais aller dans le sens de Nesrin, parce que, par exemple, reprenons le passé, replongeons un peu dans l'histoire. Les femmes belles en ont beaucoup souffert, parce que quand vous étiez domestique, ou avant encore quand vous étiez esclave, vous étiez un objet de convoitise, et elles étaient beaucoup plus harcelées et violées par les maîtres de maison. Mais en même temps, certaines d'entre elles, qui étaient les plus belles, étaient aussi suscitaient l'amour d'un maître de maison, parce qu'il tombait éperdument amoureux de la plus belle. Et parfois, le prince épousait la bergère, et c'était un moyen d'élévation sociale. Donc, il y a toujours eu...
Penser aux favorites aussi.
Voilà. Donc, les concubines des favorites qui trouvaient un moyen de mobilité par leur beauté, puis ensuite qui utilisaient parfois leur intelligence, mais c'est une autre histoire, pour pouvoir gravir les échelons. Mais il y a, c'est ce que je voudrais souligner, à côté de ces tristes privilèges, on va dire comme ça, c'est sans commune mesure avec la damnation qu'être laid, d'être moche, d'être fait partie des hideux qui, eux, tout au long de leur vie, doivent souffrir quand même de complexes personnels et d'un certain rejet de la part de la société, à l'école, au travail, dans les relations amoureuses, parfois en politique aussi. Et donc, je voulais quand même insister pour, non pas pour rééquilibrer les forces, mais pour dire qu'effectivement, il y a des formes de souffrance plus plaisantes que d'autres.
Alors quoi, personne n'est d'accord vraiment sur le concept de beauté, mais tout le monde s'accorde sur le concept de laideur.
Moi, c'est ce qui me dérange un peu, c'est-à-dire que si on considère que la beauté est une construction sociale, forcément la laideur l'est aussi. Donc, c'est-à-dire que la laideur, c'est comme l'a dit d'ailleurs c'est Virginie, si je me trompe pas, c'est lié déjà au fait d'avoir encore gros, c'est considéré comme plus laid qu'avoir encore mince. Mais il y a aussi, comme je l'ai dit, c'est traversé par le genre. Donc, être un homme et une femme, c'est pas la même chose. Ce qu'on considère laid chez un homme, c'est pas pareil que ce qu'on considère laid chez une femme. Et il y a aussi la question, encore une fois, de la race, de l'ethnicité. C'est-à-dire que la beauté, elle est blanche majoritairement. Et quand on est une femme, par exemple, le racisé, c'est très important de le comprendre. Quand on est une femme arabe, noire, etc., qu'on est qualifiée de belle, on n'a pas soudainement un privilège blanc ou un privilège de classe. C'est
oui,
très important.
Une personne en situation de handicap.
Exactement. C'est-à-dire, c'est très important de comprendre que c'est traversé cette question-là de laid, de moche, par en fait des constructions sociales qui sont classistes, qui sont racistes, qui sont genrées, qui sont grossophobes, qui sont coloristes. Donc, ce n'est pas objectif. Quand on dit quelqu'un de laid, ça ne veut pas dire qu'il est laid. Ça veut dire que il ne correspond pas aux normes blanches, aux normes bourgeoises, etc. C'est ça qu'il faut dire. Il n'y a pas de laideur objectif, en fait. C'est ça qui est important de le dire. Et c'est des constructions sociales à dénoncer. Et je veux terminer sur une chose qui est un aspect très important sur pourquoi je considère que la théorie du beauty privilege, on n'en parle pas comme un capital, est dangereuse. C'est qu'elle vise à dire que les femmes seraient plus avantagées que certaines femmes dans le champ, dans le groupe social des femmes, mais qu'elles seraient aussi plus avantagées que les hommes. C'est ce que disent d'ailleurs les masculinistes sur les réseaux sociaux. Ils sont partis du beauty privilege pour parler maintenant d'un woman privilege. Et pour dire les femmes sont avantagées par rapport aux hommes sur leur physique. Et pourquoi c'est dangereux, parce qu'il y a des études scientifiques qui l'ont montré aux États-Unis sociologiques pour le coup, qui ont montré que si vous êtes considérée comme trop belle en tant que femme, votre consentement dans le cadre de votre couple, de la sexualité, est considéré comme permanent. Donc, par exemple, il y a des études très inquiétantes sur l'inceste qui considèrent que quand une jeune fille, une petite fille est trop jolie et qu'elle dénonce l'inceste, on ne la croit pas. Et c'est très important de le comprendre, c'est-à-dire que être perçu comme jolie quand on est une femme, ça ne préserve pas ni des violences sexistes et sexuelles, ni de la misogynie, ni de toutes ces choses-là, et qu'on fait croire aux femmes que être belle les protégerait de la société sexiste. Et ce n'est pas le cas. C'est même, je pense, tout l'inverse, parce qu'il y a une forme d'objectivation avec la beauté féminine où on est hypersexualisée et sexualisée. Par exemple, on le montre avec les actrices qui ont lancé le mouvement MeToo, ou les mannequins qui commencent à dénoncer ce qui se passe. Il y a quelque chose qui dit que la beauté devrait préserver les femmes, mais ce n'est pas le cas. La beauté ne préserve ni du sexisme, ni du racisme, ni du classisme. Il faut exactement le formuler comme ça pour comprendre cet enjeu.
Et c'est là que j'aimerais aller, justement, cette beauté qui est généralement dictée aussi par les magazines, la publicité, etc. On a vu aussi fleurir depuis des années le body positivisme, et je me tourne vers vous, Virginie Grossa, ce mouvement qui prône l'acceptation de tous les types de corps. Est-ce qu'il a changé quelque chose, ou est-ce qu'on assiste justement à un peu un retour en arrière? Et je vais faire référence à quelque chose de très précis, c'est cette campagne de pub pour le magazine Vogue qui met en scène un mannequin réalisé avec de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, Virginie Grossa.
Si, si, bien sûr, ouais. Pour la pub Guess, oui, bien sûr, j'ai vu passer. Ouais.
Est-ce que vous constatez un changement? Le body positivisme, excusez-moi, a-t-il encore la cote, ou on assiste à un retour en arrière?
Alors, c'est vrai qu'il a eu la cote il y a quelques années, où on a vu fleurir voilà quelques femmes en forme ou qui sortaient des standards, et toutes les marques sont devenues du jour au lendemain inclusives avec des campagnes de pub. On habille tout le monde est le bienvenu chez nous. On avait des mannequins qui se tordaient dans tous les sens pour faire apparaître un mini bourrelet ou un petit poil pour correspondre à cette mode. Et malheureusement, pour moi, c'était simplement de la publicité, du marketing. Et aujourd'hui, bah, c'est fini. On retrouve quelques mannequins grande taille, mais elles font une taille à peine 42. Et on en parlait tout à l'heure, elles ont des seins, des fesses, mais surtout pas de ventre et surtout pas double menton, mais toutes les autres modèles qui avaient pu percer sont totalement invisibles aujourd'hui. Et personnellement, en France, je ne trouve rien pour m'habiller, alors que si je regarde des campagnes de pub d'il y a quelques années, apparemment tout le monde se souciait de mon image. Par exemple, la marque Marine Serre fait défiler donc Iseult, qui est une chanteuse qui a quand même un certain bon point. Alors elle est très en vogue, Iseult, c'est génial, on la veut en publicité. Par contre, chez Marine Serre, vous ne trouverez rien qui dépasse la taille L.
Voilà, il y a encore du chemin à faire pour évoluer les mentalités, pour faire évoluer les maladies. Les mentalités, c'est encore mieux quand c'est mieux prononcé. Je vous remercie en tout cas tous les quatre d'avoir participé à ce débat de midi qu'on aurait pu encore poursuivre longtemps. Merci Nesrine Slaoui, Jean-François Dortier, Virginie Grossa et Guillaume Vallet d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe du débat de midi, sans qui bien tout cela ne serait pas possible. Aurore Mancip et Louise Morfois à la programmation. Nos stagiaires Anaé Balista et Ryan Saibi qui sont également les micros au micro-trottoir. Merci aussi à Djoubaka pour la programmation musicale. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher et avec à la technique Alex Olaré Ouajou Otinois. Merci enfin aussi à notre documentaliste Patricia Miura. Voilà donc qui vient mettre un point final à ce débat de midi.